Et en même temps, l'ambivalence des réseaux dans la vie quotidienne dans la métropole, puisqu'ils sont à la fois des éléments de liaison et d'extension avec le urbain, mais ils sont aussi producteurs d'externalités négatives, multiples, pollution par exemple, bon, c'est le grand problème des grandes métropoles. Externalités positives et négatives, comment gérer dans la ville ces externalités sans les renvoyer simplement aux voisins? Avec un autre élément, me semble-t-il, de la dépendance de la métropole à ces réseaux aujourd'hui, c'est le fait que ces réseaux deviennent des réseaux à grande vitesse, qu'est-ce pour les transports haut débit pour l'information, et donc accélère le phénomène de vitesse à l'intérieur de la ville et de la vie à la vitesse, comme dit la dromologie de Virilio, ou ce qu'en Corée on dit pali pali, ça veut dire vite vite. Donc ces finales métropoles à la fois résultent en grande partie des réseaux technologiques, dépendent de ces réseaux technologiques, et en même temps, comme le réseau et ces réseaux polarisent, la métropole offre des économies d'échelle, offre des économies d'agglomération, et on voit, je vous donne un exemple simple, l'hypermarché n'existe que par le réseau routier, bien sûr, qui y conduit, et en même temps, à partir de l'hypermarché, va se développer, simplement, rurbaine de la métropole, tout simplement à cause des économies d'échelle liées à la concentration de proximité. Alors, on cherche, plusieurs auteurs cherchent à redéfinir, à repenser avec des nouveaux rôles faits avec et par les réseaux. Alors, Bressan et Dissler, dès 86, dans Le Prochain Monde, avait parlé de réseau police, je l'ai cité. François Acher parle, lui, de métapole pour désigner la ville en disant les TIC et les transports participent à la forme, à la production de nouvelles formes urbaines qu'il appelle des métapoles, agglomérations urbaines de plus en plus étendues, parfois d'échelle régionale, discontinues, hétérogènes, polynucléaires, qui intègrent progressivement dans leur fonctionnement quotidien des villages de plus en plus éloignés. Ces métapoles sont les nouvelles formes de villes à l'époque de la modernité avancée. C'était une citation de Acher. Bill Mitchell, qui essaye de définir ce qu'est la ville numérique, c'est un texte plus récent de 1904. Vous savez, Mitchell, il est architecte, responsable du multimédia au MIT. Il dit les villes ne sont pas du tout appelées à disparaître, contrairement à certaines utopies du fait du développement des réseaux d'information en particulier, mais au contraire à se modifier radicalement. Et les TIC ne sont pas, Graham et Marvin le disent aussi, ne sont pas des alternatives à l'urbanisation, comme on le dit souvent, des substituts à l'urbanisation, mais au contraire des outils de l'urbanisation. C'est-à-dire les réseaux d'information et de communication créent de l'urbain, ne se substituent pas à la ville et contribuent à transformer profondément l'infrastructure même des villes. Castells propose dans ces sociétés en réseau, dans la galaxie Internet, la notion de cité informationnelle qui regroupe, dans lequel d'un côté sont regroupés les services et les lieux de travail. Il donne ces exemples à partir notamment des métropoles américaines, Boston, Détroit, Atlanta ou autour de San Francisco. Les TIC, les réseaux d'information et de communication, permettent dans la grande métropole pas simplement de développer des infrastructures à haut débit, pas simplement d'accélérer les flux d'information, mais aussi d'être des outils de régulation en temps réel des trafics automobiles, des péages, transports publics. Et ces réseaux permettent aussi de recréer ou provisoirement de mettre en place des prothèses techniques à la solitude, à l'anonymat, à l'individualisme dans la grande ville. Il faut voir aujourd'hui ou à Séoul l'utilisation du téléphone mobile de troisième génération en haut débit qui est constamment utilisé dans la vie quotidienne, dans les métros, dans le transport, etc., y compris pour faire les pages web sur le réseau. Donc ce réseau d'information crée en même temps des réseaux matériels. C'est-à-dire que le réseau immatériel crée des réseaux matériels. Le fait d'échanger énormément, par exemple de faire du commerce électronique sur Internet, entraîne la multiplication de réseaux matériels de distribution pour les colis et qui pose énormément de problèmes dans la gestion des centres-villes, des grandes agglomérations. Alors, les réseaux, dans la dépendance de la colle par les réseaux, se caractérise, pour simplifier, et je finirai comme ça, d'une part par le développement des réseaux techniques urbains, c'est-à-dire les réseaux dans la métropole, et d'autre part les réseaux entre métropoles. Les réseaux techniques urbains, je l'ai dit, je le résume en une formule que j'emprunte à Joël Tarr, la grande ville occidentale est passée en 150 ans de la pedestrian city à la networked city. Donc, on est passé du déplacement à pied et hippomobile, si on veut, à la cité interconnectée dans un espace de temps extrêmement court. Et on connaît la Lloyd Wright en 1932, qui est d'ailleurs inspiré du texte de Kropotkin et Atelier, qui avait été publié en 1910. Donc c'est une vision très libertaire, si je puis dire, qui combine d'une cité américaine, qui est à la fois de forme carrée, maillée, avec une artère principale notamment, qui sur le modèle un peu haussmannien, qui est connecté à des points de concentration. Donc on gère le maillage et le croisement, le damier et les connexions. Et dans son bouquin, d'utopie urbaine, il envisage, dès 1930, tous les moyens de communication, comme voiture, téléphone, même radio, et même, il imagine, télévision et ordinateur. La deuxième dimension de cette dépendance de la métropole au réseau, c'est le développement des réseaux entre les métropoles, pas simplement à l'intérieur, ce qui est constitutif d'une sorte d'archipel des grandes capitales et des pôles économiques. Ce que Dissler et Brecht, c'est le titre d'un de leurs essais, ou ce que aussi Pierre Veld sur cette notion d'archipel. C'est-à-dire que ces cités globales, et en même temps, il y a une concurrence féroce entre elles, pour des raisons d'attractivité, bien sûr, de l'emploi, des finances et des moyens de production. C'est-à-dire qu'il y a une logique à la fois de... Alors, qui dit archipel, dit connexion, dit lot spécialisé, relié entre eux. Le meilleur exemple, c'est celui qui a été pris par Saskia Sassen quand elle propose la notion de cité globale. C'est justement le phénomène des 3-8, si je puis dire, entre les grandes capitales financières, que sont Wall Street, Londres, Francfort, enfin Londres surtout, et Tokyo. C'est-à-dire que quand il y a sur le marché d'échange est un marché tournant, c'est puis Hong Kong et Singapour, puis Londres et Francfort, et après New York et Chicago. Et donc là, on a un anneau invisible qui est politico-financier entre les métropoles. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement les grandes routes maritimes ou les grandes routes aériennes qui structurent les grandes métropoles comme Rotterdam, Kobe, New York, qui sont les grands ports, ou les grandes routes aériennes liées au trafic aérien. Là, on a une sorte d'anneau invisible entre ces villes. Et on voit ça, cette idée, on peut la généraliser, elle a été généralisée par certains urbanistes ou géographes, dans la notion de réseau de villes ou de polycentrisme maillé, à préticulaire, comme nouvelle forme d'organisation. Et le polycentrisme maillé est même, je dirais, le modèle revendiqué à l'échelle européenne sur le mode normatif, c'est-à-dire que les pays européens, dans le restructuré, face à la crise de l'État-nation, en polycentrisme maillé entre les métropoles et le continent européen. Alors, Saskia Sassen dit ceci à propos de la cité globale, ça me semble intéressant, que la cité globale combine la dispersion spatiale et l'intégration et confère de ce fait un rôle stratégique aux grandes métropoles. Alors, c'est-à-dire qu'elles ajoutent à leur long passé de centre de la banque et du commerce international, ces villes fonctionnent désormais de quatre manières nouvelles. comme point de commandement fortement concentré de l'organisation de l'économie mondiale, comme foyer des firmes financières et de lieux de production, ce que disait Tony en introduction, y compris la production d'innovation pour les industries dominantes, et comme marché pour les biens et les innovations produites. Cet archipel métropolitain politico-financier, notamment sur la triade Amérique, Asie, Europe, de l'Ouest, est le véritable système de pouvoir. Et Castells, lui, propose, en rajoute, je dirais, sur sa scène, qui propose la notion donc de cité globale, en parlant, lui, de mégacité. Et il définit la mégacité comme globalement connectée et localement déconnectée, physiquement et socialement. C'est-à-dire globalement connectée dans le réseau global que j'évoquais, et localement déconnectée, c'est-à-dire qui produit à l'intérieur de la cité elle-même de l'exclusion, c'est-à-dire plusieurs zones qui ont accès ou pas à l'intérieur de, soit des points nodaux et les centres de pouvoir de la nouvelle forme spatiale de ce qu'il appelle l'ère de l'information. Donc, conclusion, la métropole développe à l'intérieur d'elle-même, multiplie les réseaux entre métropoles et devient elle-même un nœud d'interconnexion entre ces différents réseaux stratégiques, politiques, financiers, économiques, commerciaux. C'est moins la hauteur des tours, malgré le 11 septembre, qui compte que l'appartenance aux réseaux horizontaux et aux anneaux invisibles, multiples et stratégiques. En même temps, la métropole déconnecte une partie de ses populations et donc produit de la ségrégation sociale et politique, y compris par les réseaux. Alors, on peut dire à partir de là que on a plusieurs tendances très fortement convergentes qui fortifient les métropoles et qui accentuent la polarisation, non seulement l'augmentation, la croissance de la population dans l'urbain, et des réseaux. Tous ces éléments confluent, convergent vers le renforcement de la polarisation, c'est-à-dire qu'on a une seule et deux flux. Deux remarques pour finir. La convergence des visions libérales et libertaires, c'est-à-dire pôles connectés et en concurrence. Vision libertaire héritée, je l'ai dit, des Saint-Simoniens, Proudhon, Kropotkin, jusqu'aux utopies de Reich dans les années 30 aux États-Unis, qui est celle d'une décentralisation obtenue grâce à... C'était que dans le réseau technique, il y a une vision politique. Et en même temps, vision libérale d'un capitalisme fluide et de la circulation généralisée et accélérée pour accompagner le mouvement, à la fois l'accumulation et la circulation accélérée du capital. Ce que Castells appelle le capitalisme informationnel réticulaire, c'est-à-dire capitalisme à la fois fluide et en mouvement. Et dernière remarque, le pouvoir est de plus en plus dans les réseaux. Il me semble que c'est une question majeure et qui maîtrise les réseaux, qui régule les réseaux. On l'a vu au sommet mondial de la société d'information à Tunis, on a vu combien l'affrontement sur la régulation d'Internet était crucial. Condoleezza Rice disant, pas question de toucher à la régulation d'Internet, c'est à du commerce. Et donc la maîtrise des réseaux techniques devient plus importante que la maîtrise des horloges telle qu'elle a fonctionné au niveau des États-nations. Voilà, merci.